Chers frères et sœurs et chers amis, si vous désirez que vos prières deviennent une réalité et qu'elles soient puissantes et surtout exaucées, alors il faut d'abord être sauvé. Ma question sera donc, es-tu un chrétien ? Vous dites, ou tu réponds, je l'espère, mais n'es-tu pas sûr ? Non, je ne pourrai jamais être sûr dans cette vie, c'est ce que je pense. Que dirais-tu, cher ami, si je t'affirmais que moi je suis sûr ? Oh, je penserais que tu es un peu présomptueux. Mais que dirais-tu si je t'apprenais que Dieu s'attend à ce que je sois vraiment sûr? Est-ce vraiment possible ce que tu dis là? Es-tu sérieux? Sais-tu, toi, que tu es un chrétien? Oui, moi j'en suis absolument sûr. Et tu dis que Dieu s'attend à ce que tu sois sûr, que nous devons être sûrs. Certainement. Mais comment le sais-tu? Tout simplement parce que la Bible le dit ainsi. Où cela? Dis-le-moi. Eh bien, c'est dans la première épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 13. Écoute attentivement. Là, il est dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Es-tu sûr d'avoir bien entendu? Est-ce que ce n'est pas, par exemple, je vous ai écrit ces choses afin que vous pensiez, espérez, supposiez, ou souhaiter que vous avez la vie éternelle? Non, 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 non. Non. Il est écrit avec des mots très clairs, afin que vous sachiez. On ne peut se tromper à cet égard-là. Que vous sachiez. Mais qu'est-ce que tu penses que cela signifie? Mais cela doit signifier ce que cela veut bien dire. Mais je ne savais pas que ce verset était dans la Bible. Pourquoi ne l'ai-je pas vu auparavant? Et pourtant, il est bel et bien là. Crois-tu maintenant que tu puisses savoir? Est-ce possible d'être sûr? Oui, oui. Je comprends, car Dieu le dit clairement. Mais comment? Oui, dis-moi comment savoir. Oh, j'aimerais tellement me sentir sauvé. Eh bien, écoute encore une fois cela. Sentir, as-tu bien dit? Sentir. Car il est dit, je vous ai écrit ces choses, donc, est-ce que ces mots disent quelque chose au sujet de sentir? Non, pas du tout. Est-ce que le verset dit « Je vous ai donné ces sentiments heureux » Non, il est dit « Je vous ai écrit ces choses ». Ça, c'est tout autre chose. Ah bon, maintenant je comprends et je vois clair. Cela veut dire les choses écrites dans la parole de Dieu concernent le salut et qu'ils sont irréfutablement vrais. Exactement. Maintenant, regardons-en quelques-unes, car si tu remplis les conditions du salut, alors sur la base de l'autorité de la parole de Dieu, tu sais que tu es un chrétien. Cherche d'abord et lis. Par exemple, Saint Jean, chapitre 1, verset 12. Là, il est dit à ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire qui ont reçu Christ, qui est la parole. Et elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. As-tu maintenant reçu Christ comme ton sauveur personnel? Oui, je l'ai reçu. Alors, sur la base de l'autorité de la parole de Dieu, tu es son enfant. Donc, cela doit être vrai, absolument vrai, puisque Dieu le dit. Mais oh, cela me semble trop beau, en quelque sorte, pour être vrai. Et pourtant, c'est bel et bien vrai. Dieu soit béni. Écoute maintenant Saint Jean chapitre 6, verset 37. Là, il est dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Es-tu venu à lui? Oui. Oh oui, je suis venu à lui. Je suis venu à Jésus-Christ et je l'ai accepté comme mon sauveur personnel. Et es-tu maintenant sauvé? Est-ce que je désire vraiment savoir cela? C'est important. Eh bien oui, dis-moi, t'a-t-il mis à la porte? T'a-t-il jeté dehors? Oh, je ne sais pas. Eh bien, si tu ne le sais pas, écoute encore attentivement ceci. C'est écrit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 6, verset 37. « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Je répète, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Il dit bien, « Je ne mettrai pas dehors. » Alors, il doit m'avoir reçu. Exactement. Donc, tu es venu et il t'a reçu. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre s'il voulait demeurer fidèle à sa sainte parole? Oui, c'est vrai. Et quand je pense que j'aurais pu être sûr dès le commencement, maintenant je sais que je suis enfin sauvé parce qu'il le dit. Oui, et puisqu'il le dit, il doit en être ainsi. Mais supposons que maintenant Satan me fait de nouveau douter. Alors, retourne simplement à la Bible et lis à haute voix ces passages et beaucoup d'autres semblables. Et il s'enfuira loin de toi. Oui, Dieu soit loué. Quel privilège c'est d'être enfin sûr. Sais-tu qu'il me semble maintenant qu'il serait présomptueux de ma part de douter de mon salut? Oui, ce serait certainement présomptueux. Cela redeviendrait à appeler Dieu en quelque sorte un menteur. Et ça, il vaut mieux l'éviter. Que Dieu me pardonne. Je ne m'en suis jamais rendu ainsi compte. Mais maintenant, laisse-moi te dire encore une autre chose. Il y a un autre moyen par lequel tu peux être sûr d'être un chrétien sauvé. Et qu'est-ce que c'est encore? Eh bien, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Permets-moi de te dire Romains, chapitre 8, verset 16. Eh bien là, il est écrit, l'Esprit Saint, lui-même, rend témoignage à notre esprit, tu vois la différence, que nous sommes enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut bien dire? Eh bien, cela veut dire que quand tu crois la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui habite dans le cœur de chaque croyant, il rend témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Oh, Alors ça, je trouve vraiment merveilleux. Deux témoins. Premièrement, il y a la parole de Dieu. Et deuxièmement, il y a même l'Esprit Saint de Dieu. Alors maintenant, es-tu satisfait ? Oh oui, et comment je le suis ? Et le sais-tu maintenant ? Oui, naturellement, je le sais. Es-tu donc un chrétien sauvé ou pas ? Eh bien oui, grâce à Dieu, je le suis et je le sais maintenant. Oh oui, j'en suis même totalement sûr. Merci, car cela vaut la peine d'être sûr. Alors, maintenant, chers amis, nous allons essayer de comprendre ce que veut dire la prière efficace. Chers frères et sœurs, si je devais définir simplement la prière, je la comparerais à une liaison téléphonique avec le ciel. C'est aussi simple et aussi compliqué pour certains. On peut actuellement téléphoner aux quatre coins du monde avec son portable, sans la moindre difficulté, et en quelques secondes. Imaginez ce qu'a représenté l'établissement de tous ces systèmes de télécommunication en termes de travail, de fatigue et même parfois de danger. De même, lorsque je termine ma prière et que je demande à Dieu de l'exaucer au nom de Jésus-Christ, ai-je vraiment conscience du prix payé par Christ pour que cette communication soit devenue possible ? Dieu a promis d'exaucer toute prière faite au nom de son Fils bien-aimé. Tout ce que vous demanderez en mon nom, est-il dit, je le ferai. Alors il est vraiment la ligne par laquelle je peux immédiatement et sans intermédiaire joindre Dieu. Nul ne vient ou vient au Père. Je répète, nul peut venir au Père Céleste, sinon par son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et cette définition est simple à nos yeux. Il semble même trop simple, diront certains. Mais cela a impliqué sa venue tout de même sur terre. C'est pas peu de choses. Sa passion et sa mort sur la croix, souvenez-vous. La Bible nous indique que le chemin qui conduit à Dieu n'a pas toujours été ouvert. L'Épître aux Hébreux nous dit que Christ nous a ouvert la voie au prix de son précieux sang. Souvenez-vous toujours de cela. Hébreux chapitre 2, verset 9. Chers amis, ce sont nos fautes, oui, nos fautes, qui ont coupé le contact avec Dieu. Mais Christ est venu. Il a rétabli la ligne au prix de ses propres souffrances et de ses peines. Et maintenant, nous pouvons joindre Dieu, le Père Céleste, par Christ. J'ai comparé la prière à une communication téléphonique, mais elle est bien plus que cela. Quel prodige, en effet, que Dieu puisse entendre ma voix et que je puisse entendre la sienne en esprit. Imaginez que l'on peut appeler Dieu, qu'il nous entend, qu'il est possible de le joindre à tout moment, aussi souvent même qu'on le veut, et tout cela gratuitement, c'est vraiment la chose la plus invraisemblable qui soit. La prière suppose la foi, car sans la foi, il nous est impossible de prier. Ce serait même absurde de le faire. Mais ayons foi en la réalité de Dieu et de son Christ, et ainsi la prière devient un acte tout à fait sensé. je peux m'adresser à Dieu parce que je sais qu'il écoute. En outre, je sais que ma prière ne restera pas sans réponse. Il a été dit que la prière, elle, c'est un acte humain et même le plus audacieux et aussi en même temps le plus humble. Ça, c'est bel et bien vrai, car oser s'adresser au souverain des cieux et de la terre, qui règne sur toute créature et sur l'univers entier, constitue véritablement l'acte le plus téméraire que l'on puisse concevoir. Prier, c'est donc, dans le même temps, l'acte le plus humble qui soit, parce que celui qui prie montre ainsi qu'il ne peut rien, qu'il est totalement impuissant à intervenir par lui-même. Celui qui prie avoue qu'il est au bout de ses possibilités, qu'il s'en remet entièrement entre les mains expertes et puissantes, représentant son seul espoir. Lorsque je prie, je dis à Dieu, « Seigneur, interviens. Tout dépend de toi. Oui, tu es le seul à pouvoir m'aider. Personne d'autre peut m'aider. Toi seul peux me secourir. » La prière constitue donc un engagement total et la Bible représente souvent cet acte comme un combat. Or, qui dit combat, dit résistance. Oui, c'est une lutte, une véritable opposition. C'est le combat de la foi. C'est l'assaut lancé contre nos doutes, contre paresse et contre notre passivité. Voyez-vous, la prière est vraiment un combat parce que c'est principalement le lieu où nous devons affronter les puissances des ténèbres, cherchant à nous barrer le passage vers Dieu, comme le montre l'exemple de Daniel au chapitre 10. En Éphésiens, chapitre 6, verset 12, saint Paul confirme que nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles maléfiques, contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les souverains de ce monde de ténèbres, oui, contre les esprits pervers qui sont dans les régions célestes. La prière étant vraiment un combat, nous pensons bien le remporter, sans quoi nous ne lutterions pas. Et nous, en attendant une réponse, c'est pourquoi, voyez-vous, la prière est donc liée à cette espérance, à cette réponse. Car celui qui prie, il attend, il sait que Dieu l'écoute, et il est donc certain d'obtenir une réponse. J'entends ici quelques objections qui s'élèvent. Certains diront qu'ils ont essayé de prier et que cela n'a absolument rien changé, que Dieu n'est pas intervenu comme il le souhaitait. Il, au pluriel, en conclut donc que la prière est totalement inutile, que ça sert à rien. C'est probablement en cela qu'existent les malentendus. Car tout d'abord, votre prière était-elle sincère? N'avez-vous pas considéré la prière comme une astuce, une ruse, ou si vous voulez, le système D, pour que Dieu soit à vos côtés et que Dieu exécute votre volonté? Or, dans ce cas, il n'est pas étonnant que cela n'ait pas fonctionné. Dieu ne désire pas se mettre de votre côté, de notre côté. Il veut nous mettre de son côté, ce qui est très différent. Je répète, Dieu ne désire pas du tout de se mettre de votre côté. Mais il veut nous mettre de son côté. Dieu n'est pas à notre service pour faire nos quatre volontés. Il attend que nous fassions la sienne. La volonté de Dieu est toujours la bonne. Elle est agréable et parfaite, même si elle nous paraît un peu contraire à nos souhaits. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas toujours exaucés comme nous l'entendons. D'autre part, si votre prière n'a pas fonctionné, peut-être est-ce parce que vous avez manqué de foi. Vous priez, mais vos doutes subsistent plus fort que jamais. Pourtant, Christ a dit, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous l'obtiendrez. » Saint Marc, chapitre 11, verset 24. Chers frères et sœurs, lorsque vous priez, croyez-vous véritablement que votre requête vous est accordée? Si ce que vous demandez est nécessaire, mais vraiment utile, et en plus indispensable, alors vous pouvez être certain que Dieu pourra vous exaucer. Il faut bien reconnaître que nous avons les pires difficultés à discerner ce qui contribue vraiment à notre bien. Dieu sait beaucoup mieux que nous ce qui est bon et nécessaire à notre bien-être. Si par exemple, nous lui demandons de l'argent, eh bien, il nous donnera peut-être la possibilité de faire un travail supplémentaire pour nous permettre de gagner cet argent que nous avons besoin. Mais il jugera peut-être aussi qu'il nous est plus profitable d'être soumis à la patience et à la persévérance. Car l'important, c'est de savoir discerner la volonté de Dieu. Voyez-vous, dans la prière enseignée par Christ, dans Saint Matthieu chapitre 6, verset 9, jusqu'au verset 13, les priorités appartiennent toujours à Dieu. Ce sont la gloire de son saint nom, de son règne et de sa sainte volonté. La première requête est bien connue, que ton saint nom soit sanctifié. Cela signifie que nous demandons que son nom soit honoré et respecté. La seconde demande concerne la venue de son règne. Que ton règne vienne. Et la troisième, l'accomplissement de sa volonté. Oui, que ta volonté soit faite et non pas seulement la mienne. Ensuite, uniquement après cela, il sera question du pain quotidien, du pardon des offenses, puis de la demande de délivrance de la tentation. Avouons que cet ordre de priorité est rarement observé dans nos prières spontanées. Nous commençons généralement par demander à Dieu ce que nous voulons, nous et pour nos proches. Nous nous occupons d'abord uniquement de nous. C'est moi qui compte. C'est moi qui suis sur le trône. Ensuite seulement, s'il nous reste un peu de temps, alors nous prierons un peu pour les intérêts de Dieu. Oh, mais juste un peu. Nous renversons donc, tout simplement, l'ordre des priorités, ne croyez-vous pas ? Or, cela n'est pas conforme à la manière de prier de Christ. Jésus-Christ se préoccupait avant tout de sanctifier dans sa vie le nom de son Père. Je répète, Christ se préoccupait avant tout de sanctifier dans sa vie le saint nom de son Père. Il se souciait de son règne. Et il voulait faire en tout sa volonté. L'amour qu'il avait pour son Père inspirait toutes ses prières. Il était donc en mesure d'affirmer « Mon Père m'exauce toujours ». Aussi, selon notre comparaison, la prière est une liaison téléphonique avec Dieu. L'important dans cette conversation n'est pas ce que nous disons ou demandons à Dieu, est-ce ce qu'il dit et qu'il nous demande. Non, car dans la prière, il nous transmet toujours quelque chose de très important. Il nous demande de nous souvenir qu'il est un Père, qu'il nous aime et qu'il nous veut uniquement du bien. La prière est le stimulant le plus efficace de notre vie chrétienne. Elle devient un besoin pour tous ceux qui se laissent remplir de l'Esprit Saint. Ils ont toujours envie de prier, car la prière est un contact vivant, personnel et intime de l'âme avec Dieu. La prière est donc une force. Elle est à l'âme ce que la respiration est au poumon. Elle est une manifestation de la vie. La prière du juste est efficace. C'est ce que nous dit Jacques, chapitre 5, verset 16. En conséquence, pratiquons-nous-la, adressons-nous à Dieu et en toute simplicité et avec la confiance enfantine du bambin, demandons à son père un morceau de pain. Jamais le papa n'aurait l'idée de lui donner un caillou à la place du pain. Donc, prions avec confiance au nom de Jésus-Christ et nous tarderons pas à constater qu'il nous entend et qu'il nous répond. Il ne nous répondra pas obligatoirement selon nos propres désirs, car ces dernières ne s'accordent pas toujours avec sa volonté désireuse de notre bien absolument réel. Mais Dieu répondra selon sa sagesse et son amour. Il nous donne ce qui nous convient au mieux. Il pourvoit même à nos besoins et inonde sa paix de tous ceux qui mettent leur confiance absolue en lui. Oui, en effet, de nombreuses personnes s'interrogent sur la nécessité de prier, sur la raison de prier. Et beaucoup d'entre vous ont prié pendant des années de tout leur cœur afin d'obtenir quelque chose de beau, de grand, qui ferait certainement plaisir à Dieu. Mais la prière est restée absolument sans réponse. Pas le moindre signe d'encouragement et le ciel semblait hermétiquement fermé. Vous avez fini par renoncer et vous vous êtes découragé. Vous avez même renoncé à toute autre prière, à toute participation au culte, à la lecture de cette Bible qui n'en finit pas de dire que Dieu entend les prières et les exauce si l'on prie de tout son cœur et avec foi. J'insiste, chers frères et sœurs, car rien n'est absolument perdu. Seulement, voyez-vous, selon notre maturité, eh bien, nous devons un peu apprendre à prier selon les règles. Selon les règles, si nous désirons que notre prière soit efficace. L'exemple historique du roi David, qui n'était pas n'importe qui, nous montre bien comment Dieu nous apprend à prier et transforme peu à peu notre prière de mendiant, on peut bien le dire, en un chant triomphant. Savez-vous que le roi David était au comble du désespoir, car son fils Absalom se révoltait contre lui? Et même, il cherchait à s'emparer du pouvoir et il marchait carrément contre Jérusalem. Plutôt que d'en venir aux mains avec son fils, le roi David, il a préféré laisser Dieu agir. Il a donc tout simplement quitté son palais et sa capitale pour se réfugier à l'autre bout de la Palestine. Et c'est alors qu'il a fait monter vers Dieu cette prière célèbre conservée sous la forme du psaume 61. Ô en temps éternel, Yahvé, mon Dieu, entends mon cri. Sois attentif à ma prière. De l'extrémité de la terre vers toi, je crie. Je crie de mon cœur défaillant. Et hisse-moi donc sur le rocher et guide-moi. Psaume, j'ai dit 61, et sauf erreur, versets 1 et 2. Ainsi commence donc cette extraordinaire prière. Elle commence par un cri de détresse. Oui, Dieu nous aime et ne nous laisse jamais sans réponse. Il a précisément taillé des marches jusqu'à notre niveau de déchéance, des marches que rien ni personne ne saurait effacer. Il est en effet venu lui-même en la personne de Christ, fils de charpentier. Il a vécu et il est mort, pour ainsi dire, sous nos yeux. Il est descendu aussi bas que possible, dans la condition sociale et dans le statut d'honorabilité, puisque il a même été vendu pour le prix d'un esclave et exécuté comme un vulgaire criminel. Par conséquent, il est venu à notre rencontre, quel que soit du reste notre statut, si bien, que personne ne peut dire « Je suis tombé trop bas pour que Dieu puisse me sauver ». En outre, il nous entraîne à sa suite dans sa vie d'amour du prochain, un amour qui est allé jusqu'au sacrifice pour ses pires ennemis. Aucun être humain ne serait capable de faire un tel sacrifice de ses propres forces. Il nous fait passer par une sorte de renaissance et de résurrection. Et voici que notre prière de mendiant implore ceci. « Hisse-moi sur le rocher que je ne peux pas atteindre tout seul. » Et notre prière se transforme en un hymne de reconnaissance comme celle de David, dont voici la suite. Il faut l'entendre, cette suite, car tu es un abri pour moi. Oui, une tour forte contre l'ennemi. Puissais-je à tout jamais résider sous la tente et m'abriter au secret de tes ailes? Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux, tu exauces le souhait de ceux qui craignent ton saint nom. Alors je louerai des psaumes et je jouerai ces psaumes sans fin. Pour ton saint nom, je louerai ton saint nom avec des instruments de corde, avec ma harpe, en accomplissant mes vœux chaque jour. Psaume 61, versets 3 à 6 et le verset 9. J'ai pris cela de la Amplified Bible, mais rassurez-vous, toutes ces Bibles de versions différentes veulent toujours dire la même chose. Ça ne sera jamais autre chose. Rassurez-vous, je vous en prie. Que je prenne la version allemande souvent, croyez-moi, c'est pareil. Ainsi, pour que votre cri de détresse se transforme aussi en chant de triomphe, il faut qu'une transformation s'opère en vous, que vous réalisiez l'amour de Dieu pour vous, semblable à celui de l'aigle, oh oui, de l'aigle pour ses oisillons, c'est pas peu de choses. Et lorsque, savez-vous qu'un aigle apprend à voler à son aiglon, il le prend d'abord sur son dos et se limite pour la première fois, pour le premier vol, a tout simplement plané au-dessus des vallées et des précipices. Puis, il le ramène dans son air. Lors du second vol, il le prend à nouveau sur son dos, hein, mais tout à coup, il pique brusquement vers le sol. Ouh là là, hein, comme un Messerschmitt. Pardonnez-moi, ça c'était autant... Hein, afin que l'oisillon soit obligé de faire une tentative de vol. Et dès le troisième vol, l'aigle pousse directement son petit hors du nid et le force ainsi à voler de ses propres ailes. Cependant, il le surveille très étroitement et dès que l'aiglon faiblit, il pique carrément vers lui, le reprend sur son dos et le ramène au nid. Cette comparaison n'est-elle pas merveilleuse? Je vous le demande. Donc, pour prier avec efficacité, pour faire monter vers Dieu un chant d'amour et non un cri de détresse, il faut préalablement croire à son amour, attester son amour. Il est attesté, absolument, par la Sainte Parole. Dans, je crois, Deutéronome, chapitre 32, il est dit, « Il, Dieu, le trouve son peuple, et il le trouve dans un pays désert, dans un chaos total et désolé. Et là, il l'entoure, et il en prend soin. Il le garde comme la prunelle de son œil, tel un aigle excitant sa nichée, planant au-dessus de ses petits, il déploie ses ailes et le prend, le porte sur ses plumes. » Deutéronome, chapitre 32, versets 10 à 11. C'est joliment dit, cela. Si donc, mes chers amis, vous acceptez de croire cela dès à présent, alors, soyez tranquilles. Votre prière ne sera plus une supplication de mendiant, mais elle deviendra le chant de triomphe du combattant qui s'élance vers la victoire. Alors seulement oui, Dieu vous donnera de voir et de toucher ce que vous avez préalablement cru sans le voir. Alléluia. La prière a été comparée à la respiration de l'âme et cela constitue une excellente comparaison. De même que notre corps a besoin d'air pour vivre, notre âme ne peut pas se passer de Dieu. Et Dieu nous est beaucoup plus nécessaire que l'oxygène. Cependant, toute respiration induit un exercice inconscient mais constant. Voyez-vous, si mes poumons cessaient par exemple de respirer, je pense que j'allais mourir assez rapidement, même très rapidement. Aussi, on comprend donc pourquoi la Bible dit « prier sans relâche ». Oui, la prière devrait être aussi habituelle que la respiration, et pourtant, rien n'est moins naturel que la prière. Nous attendons souvent d'en être réduits à la dernière extrémité avant de songer enfin à prier. Nous nous efforçons d'abord de nous tirer d'affaire tout seuls par nos propres moyens, parce que nous sommes beaucoup trop fiers pour nous abaisser, pour nous humilier et à recourir à une puissance qui nous est supérieure. Il faut beaucoup d'humilité pour prier. Ça, c'est pas le fort de l'homme. Et je me pince le nez, croyez-moi, parce que les femmes sont beaucoup plus humbles, je parle des femmes chrétiennes, beaucoup plus humbles, et ils sont capables de très grands sacrifices. Et j'en sais quelque chose, je vous le dirai un jour. Donc tant que nous nous complaisons à nous-mêmes, tant que nous sommes satisfaits de notre petite personne, nous n'avons même pas envie de prier. Or, il faut avoir conscience de nos manques pour les demander à Dieu. L'un des plus remarquables, ou l'une des plus remarquables prières de la Bible, c'est certainement celle d'un publicain, une sorte de douanier extorqueur, n'ayant probablement pas tout à fait la conscience très tranquille. Et il s'est écrié, et même en se frappant la poitrine, « Ô Dieu, éternel, prends en pitié les pécheurs que je suis. » Saint Luc, chapitre 18, verset 13. En tout état de cause, donc, n'oubliez jamais les trois points suivants. Je vais vous les dire tranquillement. Premièrement, que tout sentiment de culpabilité est un appel à la prière. Je répète, que tout sentiment de culpabilité est un appel à la prière. Christ n'invite pas les justes, ah non, mais les pécheurs. Il les appelle à venir à lui. Certains ne sont peut-être pas très tranquilles, trouvant difficilement le sommeil, sont hantés par des cauchemars. Peut-être certains ont-ils commis une mauvaise action dont le souvenir les hante. Oh, il y a un temps, je connaissais cela. Alors rien de tel que la prière. Confessez votre faute à Dieu. Il va réparer ce qui est réparable. Si possible, demandez pardon à ceux auxquels vous avez fait tort. Et puis songez un peu à notre Christ, mort, mort sur la croix. Et ceci pour nos vilains péchés, pour mon péché, car Dieu pardonne à tous ceux qui prient et se repentent de tout leur cœur. Deuxièmement, et n'oubliez jamais, que toute nécessité est une raison de prier. Avez-vous entendu? Que toute nécessité devient donc une raison de prier. Vous vous sentez seul, abandonné ou incompris. Peut-être même avez-vous du chagrin ou un poids sur le cœur. Ou bien encore, vous avez peur de ce qui pourrait arriver demain. Alors rien de tel que la prière. Priez, priez, encore et toujours. Et troisièmement, n'oubliez jamais qu'à l'heure de la tentation, alors là, il faut prier plus que jamais. Je répète, à l'heure de la tentation, elle vient très souvent et même tous les jours. Il faut prier plus que jamais. Connaissez-vous la puissance de la tentation? Avez-vous déjà essayé des défaites? C'est-à-dire, pas essayé, mais loupé, essuyer, avoir été victime des défaites morales? Êtes-vous découragé par des rêves? Ça arrive. Et croyez-moi, c'est pas drôle. Alors priez. Priez et surtout croyez de tout votre cœur. Car Christ a bien dit que la foi, elle est dénuée de doute, et susceptible de faire déplacer les montagnes. Saint Marc, chapitre 11, verset 22-23. La foi, elle doit être dénuée de nos doutes. Or, nos doutes, évidemment, ils existent. J'en sais aussi quelque chose. Il se trouve une chose très intéressante dans la Bible, rapportée dans 2 Samuel, chapitre 11, à propos du jeune roi David. Oui, ça c'est un épisode pas tellement plaisante. Elle suscite l'indignation. En effet, succombant à la convoitise, notre merveilleux roi, mais pas en ce moment-là, il s'est mis dans une telle situation qu'il est devenu même meurtrier. Oh là là! Et le crime est peut-être une chose courante de nos jours. Aujourd'hui, un coup de couteau par-ci, par-là, ça fait peur à personne. On voit une dame d'un certain âge qui va à la banque chercher un peu d'argent, ou sa petite retraite, et déjà, derrière elle, il y a un joli couteau qui attend sur sa gorge. j'ai vu cela de mes propres yeux. Mais, voyez-vous, tout cela, c'est terrible. Alors que notre roi se promenait sur sa merveilleuse terrasse, David a tout à coup aperçu une très merveilleuse femme qui se baignait. Oh, il semblerait qu'elle avait peut-être même pas son string. Alors qu'il se promenait sur sa terrasse, le roi David a aperçu, comme je viens de le dire, une femme hors du commun. Mais cette femme était quand même, malheureusement pour lui, une femme mariée. C'était la femme d'Uri, l'épouse d'un de ses meilleurs soldats, aussi abusant de son grand pouvoir de roi. Il a fait venir cette femme et il l'a séduite. L'histoire aurait pu en rester là si cette faute n'avait pas laissé des traces qui ne peuvent plus s'effacer. Car à l'image du caractère éphémère de la jouissance du péché, la tranquillité de David a été de très courte durée. La femme a envoyé informer le roi David qu'elle était enceinte. Et David en était fort contrarié. Tout le monde allait donc savoir ce qu'il a fait. Il allait passer pour infâme aux yeux du mari et même aux yeux de tout son peuple. Croyant avoir trouvé la solution, il a accordé une permission exceptionnelle aux soldats en guerre, l'invitant simplement à retrouver les joies du foyer. Ça avait l'air merveilleux, ça avait l'air tellement gentil. Mais, heureusement, Uri n'est pas rentré chez lui. Pourquoi ? Car il avait compris la ruse du roi. Oui, David ne pouvait pas faire transférer la paternité sur le mari légitime, et Uri risquait donc, et on le comprend, de juger le roi. David ne voulait donc pas perdre la face. Il a conçu un plan assez diabolique, dont il a confié l'exécution à Joab, dans le but de supprimer Uri. Le vaillant Uri a en fait été sacrifié dans un guet-apens pour essayer ou pour pouvoir disculper le roi. Et c'est ainsi que l'adultère, car c'en est bel et bien une, l'adultère, le roi David est donc devenu pas seulement un qui commet l'adultère, mais il est devenu un fourbe, il est devenu un sale hypocrite, et pour finir, un meurtrier avec préméditation. Il avait fait assassiner carrément un innocent, un qui était un des meilleurs soldats, qui était fidèle à son service, dont le seul crime était d'avoir, hélas, une très très jolie femme. Il existe heureusement une toute autre face dans la vie de David. David est l'auteur et le compositeur de près de la moitié des psaumes contenus dans la Bible. Il s'agit de ces remarquables prières dans lesquelles des myriades d'hommes et de femmes ont puisé la force et le réconfort, la joie et la consolation dans les situations les plus variées de leur existence. Oui, des chants de louange, de reconnaissance et d'amour sont l'œuvre de David. De même que le nom de Moïse, il est inséparable de la loi du peuple hébreu, celui de David est inséparable des psaumes. Par leur nombre et aussi par leur variété et leur sincérité, ils érigeraient assurément David au sommet du hit parade de la chanson pour Dieu. Il est décrit comme un chanteur agréable à Dieu. c'est la Bible qui le dit, un chanteur agréable à Dieu. Il a composé les chants d'amour les plus purs. Lui, cet homme jadis si charnel. L'écrivain sacré parle de David comme d'un homme selon le cœur de Dieu. Dieu aurait-il donc subitement abaissé ses exigences en matière de pureté? Aurait-il tout à coup modifié ses critères d'appréciation? Non, absolument pas, car Dieu ne change pas. Il est et reste absolument saint. Mais, il se trouve que David sera devenu un modèle, la juste mesure pour tous les rois qui lui succéderont. Un roi ayant marché comme David sera jugé juste et bon. En outre, il a l'insigne honorable d'honneur que son nom soit associé même à celui du Fils de Dieu. C'est pas peu dire, car les foules disaient de Jésus-Christ qu'il était quoi? Qu'il était fils de David. Il est donc bien rare que les personnes engagées dans le chemin de l'infidélité conjugale s'arrêtent rapidement. Peu nombreux sont ceux qui ne commettent cette erreur qu'une seule fois. Bien au contraire, elle est souvent entretenue. Encore moins nombreux sont ceux qui regrettent. Alors là, ceux qui regrettent, il y en a peut-être bientôt plus, et qui confessent ce faux pas. Et très rares aussi sont ceux qui, après s'être humiliés devant Dieu, deviennent des défenseurs de la fidélité. Or, il se trouve que David faisait partie de ces rares défenseurs et modèles de fidélité. Pour y parvenir, il n'a certainement pas fait appel à ses ressources humaines, pas du tout. Les saintes écritures, qui n'ont pas camouflé la faute de ce roi, heureusement, parlent aussi du fantastique revirement de sa pensée, du jugement qu'il a porté sur lui-même et sur son terrible acte. David avait d'abord pensé à masquer son crime, c'était possible et les hommes auraient accepté sa version des faits. Mais Dieu ne l'aurait pas accepté, jamais, car on ne trompe pas Dieu, on ne viole pas impunément les lois de Dieu, jamais. Donc David a affronté la monstruosité de son attitude alors qu'il s'indignait de la conduite d'un propriétaire de nombreuses brebis, ayant pris l'unique brebis d'un pauvre homme qui s'était attaché à l'animal. Il est digne de mort, cet homme qui a fait cela. C'est ce que a dit David. Lisez 2 Samuel, chapitre 12, verset 5. Et c'est alors que l'Éternel a rétorqué, sache que cet homme, c'est toi. 2 Samuel, chapitre 12, verset 7. Et David a vu, il a vu se refléter son image telle qu'elle apparaissait aux yeux de Dieu, voleur, adultère et même assassin. Car l'Éternel regarde dans le cœur. Aussi David n'a pas cherché à s'excuser, ni à se justifier, surtout pas. L'évidence l'accablait. Il a demandé à Dieu d'effacer son péché. Aie pitié de moi, Dieu, selon ta fidélité, selon l'abondance de ta miséricorde, ô Éternel, efface mon forfait. Et lave-moi de ma faute, de mon péché, ô purifie-moi, car mon forfait, moi je le connais, et mon péché, est devenu devant moi une chose qui est constante. Psaume chapitre 51, versets 3 à 5. Alors, on peut vraiment dire alors, Dieu a répondu favorablement à la prière de David, car au jour de l'Ancien Testament, Dieu, voyez-vous, était déjà un Dieu d'amour. Il a sauvé et délivré David des conséquences éternelles de son péché. Il l'a délivré des erreurs de son cœur humain, on peut dire de notre cœur humain et pécheur. Et sa réponse est parvenue par l'intermédiaire du prophète Nathan, inspiré de Dieu et a marqué le point de départ d'une vie nouvelle, absolument nouvelle pour le roi David. Le récit du crime de David n'a donc pas été rappelé pour l'accabler, oh non. Il démontre jusqu'où la bonté de Dieu, la bonté de l'Éternel peut s'exercer dans l'expérience humaine et la puissante transformation qu'elle suscite. Peut-être avez-vous convoité, peut-être avez-vous échafaudé divers plans en vos cœurs, dans votre cœur, pour parvenir à vos fins. Mais vous n'êtes pas allé jusqu'à rendre quelqu'un veuf ou veuve pour concrétiser vos sales projets. Vos plus grandes tempêtes sentimentales n'ont peut-être pas atteint le point de non-retour. En quelque sorte, vous êtes donc moins coupable que David. Humainement parlant, vous avez donc besoin d'un moins grand pardon. Et si Dieu a entièrement pardonné David, il peut aussi vous pardonner. Votre vie en sera peut-être bouleversée en vous révélant les profondeurs de votre nature et en la jugeant. Dieu veut offrir le pardon et le recommencement d'une vie nouvelle. Bien sûr, il n'y a pas de petits et de grands péchés. Ça, il faut bien que j'ajoute. C'est important. Voyez-vous, devant l'exemple si frappant de David, avez-vous encore des objections à formuler sur les limites du pardon divin face à vos propres besoins? Avez-vous encore des objections sur l'efficacité de sa force active pour changer la vie de l'homme? Certainement pas, car David est l'exemple idéal pour rappeler qu'à Dieu, rien n'est impossible. Mes chers amis, le croyez-vous vraiment? Car il faut pouvoir le croire, et ceci de tout votre cœur, pour en réaliser la puissance dans toute votre existence. Il y a un autre qui est fort intéressant. Parlons un peu du grand Moïse, ou plutôt de la libération d'un libérateur. On peut bien le dire. Un journal local aurait pu rapporter l'événement ainsi. Ça se trouve dans Exode, au chapitre 2. Hier, une violente discussion s'est élevée entre un Égyptien et un des réfugiés hébreux. Ce dernier était accusé de n'avoir pas tout à fait accompli le travail demandé. Le ton a monté et les deux hommes en sont venus aux mains. C'est alors qu'un autre Hébreu, témoin de la scène, est intervenu. Et c'était un costaud. Il a porté des coups violents à l'Égyptien et il l'a carrément tué. L'assassin a dû prendre la fuite. Les circonstances exactes de ce drame sont encore inconnues. On connaît seulement le nom de l'assassin. Il s'appelait Moïse. A-t-il délibérément voulu tuer ou bien a-t-il été victime de son comportement? Peut-être. Personne ne peut le dire, car l'Égyptien est bel et bien mort sur le coup. Moïse, homme très cultivé, s'était fait et devenu assassin. Et ceci sous le couvert d'une apparente justice. Quel que soit le motif, personne ne pouvait rendre la vie à l'Égyptien, c'est clair. Les regrets ne serviraient à plus rien. En quelques instants, Moïse était passé du statut d'homme très très respectable à celui d'assassin. Il était quand même, souvenez-vous, le bras droit d'un des plus grands pharaons. Il rejoignait ainsi le clan de Caïn, meurtrier de son frère, et aussi de tous les humains ayant du sang sur la conscience. Combien d'entre eux referont surface? Combien d'entre eux réintégreront la société des gens honnêtes? Combien exerceront sur la société une influence bénéfique en plus? Je crois très peu. Et combien laisseront une empreinte lumineuse dans toute l'histoire de l'humanité? Encore moins. Et pourtant, Moïse a marqué son temps par le rôle déterminant qu'il a joué dans l'histoire du peuple hébreu et dans l'histoire religieuse du monde. L'appréciation générale a été beaucoup plus, on peut dire, élogieuse au terme de sa vie qu'elle ne l'aurait été juste après son crime. Car, voyez-vous, Moïse deviendra ensuite l'homme que Dieu a choisi pour libérer son peuple, et ceci sans force physique, sans révolte et sans violence. Et c'est aussi par Moïse que la loi de Dieu a été donnée, au point que celle-ci reste toujours attaché au nom de Moïse. Le peuple juif parle de Moïse, parle de l'apôtre Paul. Et même l'apôtre Paul, savez-vous qu'il s'est souvent référé à Moïse? Les contemporains de Christ se basaient eux-mêmes sur Moïse pour leur autorité. Moïse est intimement lié aux lois civiles, religieuses et morales qui ont le plus influencé les lois de nos pays et qui ont assuré la vie spirituelle de milliers de gens de l'ancienne alliance. Et dans cette loi se trouve l'aiguillon de la conscience de Moïse, car un des commandements prescrits et le suivant, tu ne tueras pas. Dieu a fait revenir Moïse sur ses pas et il lui a fait reconnaître ses erreurs. Il lui a appris à supporter l'antagonisme et à prier même pour ses propres ennemis. C'est pas peu de choses de la part d'un Moïse. Celui qui a tué par la force de son poing est devenu l'homme le plus doux de la terre. Quelle métamorphose! Oui, cet homme, ayant échoué dans sa tentative de réconciliation entre deux Hébreux, qui se querellaient violemment, a été élu de Dieu, pour être le chef absolument qualifié de toute une nation de plus de 600 000 hommes, sans compter les enfants. Exode, chapitre 12, verset 37. Donc cette nation était alors en gestation, en quête d'identité, menacée d'autodestruction, comme aujourd'hui, à cause de rivalités internes et cette fois externes. Cette percée de Moïse dans l'histoire de son peuple est absolument prodigieuse. Cependant, Moïse, il a gravi, me semble-t-il, un échelon beaucoup plus élevé encore par sa communion absolument merveilleuse et personnelle avec son Dieu. Celui qui avait dû fuir la colère de l'homme est parvenu à être considéré, écoutez bien, considéré par Dieu, par Yahvé l'Éternel, comme un ami. L'Éternel parlait même à Moïse face à face, comme un homme parle à son copain. Exode chapitre 33, verset 11. C'est une expérience presque unique dans l'histoire de l'humanité. La question qui se pose alors est, peut-on raisonnablement expliquer l'évolution du caractère de Moïse par ses seuls efforts humains? Généralement, les repris de justice tentent de s'améliorer, mais ils ne le font pas. Et je vais dire cette phrase un peu autrement. Généralement, les repris de justice, c'est rare qu'ils tentent de s'améliorer. Et le plus souvent, ils n'y parviennent jamais. Donc, leurs efforts sont absolument vains. Ils ont l'impression qu'un mauvais sort s'acharne contre eux, qui les entraîne à récidiver, voire même à empirer. Aujourd'hui, il y en a qui sortent de prison, le lendemain, ils font déjà pire que le jour précédent. Il y en a même qui ont violé, ils ont été libérés, on ne sait pas trop bien pourquoi et comment, il ne faut pas réfléchir, et à peine libérés, ils ont de nouveau violé. Sans compter qu'il y en a qui violent et tuent. C'est donc ailleurs qu'il nous faut chercher l'explication de la profonde transformation du comportement de Moïse. Son premier réflexe, après avoir tué l'Égyptien, a été d'enterrer le corps dans le sable. Quelle idée, pas tout à fait très catholique. Excusez-moi de cette petite plaisanterie. Le sable est, par excellence, le symbole même de la mouvance, de l'instabilité, mais aussi, dans ce cas, celui de l'insécurité. D'ailleurs, son forfait a rapidement été connu. N'étant pas parvenu à masquer parfaitement son crime, sa mauvaise action et son péché, eh bien Moïse n'avait plus que la solution, c'est de fuir dans l'immensité du désert où certainement personne ne pourrait le retrouver. Quelqu'un cependant l'a retrouvé, et ceci bien des années après son forfait. Il s'agit de Dieu, qui est beaucoup plus intransigeant que Pharaon, mais il y a une différence. Contrairement à Pharaon, il est aussi beaucoup plus clément. Et cette rencontre de Moïse avec Dieu a bouleversé sa vie. Oui, elle a été le point de départ d'une vie nouvelle, communiquée, alimentée, éclairée par Dieu et vécue pour Dieu. Moïse a donc été sauvé des conséquences de son acte et délivré de sa nature impulsive. Dans l'Ancien Testament, Dieu est déjà celui qui sauve. L'examen du parcours de Moïse démontre clairement, concrètement, l'étendue de la miséricorde de Dieu et l'efficacité de sa grâce. Car en effet, si Dieu a pardonné à un meurtrier et l'a utilisé pour accomplir ses desseins, il peut, à plus forte raison, le faire pour nous, pour toi. Cher ami, vous n'avez probablement pas tué. Tout au plus, votre nature plus ou moins éprise de justice, votre tempérament plus ou moins colérique, vous ont-ils amené parfois à éprouver des sentiments de haine, à prononcer des paroles blessantes ou à être agressif? Votre culpabilité n'est donc pas aussi grande que celle de notre ami Moïse. Ainsi, Yahvé l'Éternel peut vous pardonner et même vous sauver. Et dans ce qui peut vous paraître un désert dans votre vie, par manque de contact ou par isolement dont vous souffrez, Dieu n'est jamais bien loin. Dans l'exercice d'une simple activité ponctuelle, un berger tel que Moïse a rencontré Dieu. Oui, chers frères et sœurs, Dieu est toujours prêt, près de celui qui l'invoque avec sincérité. Moïse a eu besoin d'un maximum de miséricorde divine. Pourquoi donc ne pourrions-nous pas en obtenir à un degré moindre? Chers amis, nous allons terminer ensemble maintenant par la prière. Seigneur notre Dieu, toi qui nous as donné ton Fils bien-aimé, nous te remercions pour le sacrifice qu'il a accepté afin de nous sauver du péché. Jésus-Christ, notre Sauveur, toi qui es la tête de l'Église, protège ton corps, toi qui es le Fils bien-aimé, manifeste le Père. Toi, Sauveur Tout-Puissant, sauve ceux qui se noient, qui se perdent. Nous te demandons de nourrir notre âme qui est affamée. Toi, témoin fidèle, fais-nous participer à ta fidélité. Toi, le modèle des serviteurs, enseigne-nous à servir. Toi, l'unité pour tous ceux, oui, pour tous ceux qui te sont fidèles. Eh bien, fais-nous la grâce de vivre cette unité au sein même de notre cité. Toi, le juste et le saint, délivre-nous de la souillure et rends-nous plus que vainqueurs à celui qui nous aime, qui nous a délivrés du péché par son sang précieux et qui a fait de nous un royaume, même un peuple de sacrificateurs pour Dieu le Père. À toi la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études et j'espère que vous aurez la soif, le désir d'écouter la suite, car le thème de la prière, à mon avis, c'est le plus important de tout ce qui se contient dans la sainte parole de Dieu. Car à partir de la prière, tout devient possible. Et oui, à bientôt à nouveau, et soyez bénis. Au revoir, très chers amis.